Je m'appelle Paola, j'ai 54 ans. Je suis née en Suisse. Mes parents sont tous deux italiens. Ma maman a cessé de travailler à l'arrivée de ma sœur et a ensuite repris une formation, puis une activité professionnelle lorsque mon petit frère a eu 10 ans. J'ai fait des études de droit et suis donc juriste. Je suis actuellement chargée de projet dans le domaine de la politique sociale cantonale. J'ai toujours exercé une activité professionnelle, toujours dans le domaine de la sécurité sociale, d'abord à Lausanne, puis à Bâle, à Berne, et depuis bientôt 20 ans à Neuchâtel. Mon taux d'activité a beaucoup varié, entre 40 et 100%. Aujourd'hui, je travaille à 80% et suis active aussi politiquement et dans divers milieux associatifs. Serge et moi, nous nous sommes rencontrés lorsque nous avions 21 et 18 ans. Nous nous sommes mariés 6 ans plus tard, il y a un peu plus de 30 ans. Nous avons 3 enfants, Étienne, 25 ans, Lucille, 23, et Rachel, 20 ans. Enfant, j'ai très vite été confrontée aux questions de genre. J'allais à l'école dans le canton de Vaud. À l'époque, il y avait un examen pour entrer en voie gymnasiale, en fin de 3e année primaire déjà. 5e Armos. Comme vous le savez peut-être, les garçons sont moins forts scolairement que les filles à cet âge-là, vers 8 ans. Dans mon école, pour que le taux de réussite soit le même pour les filles que pour les garçons avaient des cours supplémentaires de mathématiques, alors que nous, les filles, on avait de la couture en plus. J'aimais bien la couture, mais les maths étaient drôlement plus intéressants. J'ai trouvé ça très choquant, du haut de mes 8 ans.
Mon deuxième éveil à des questions de justice sociale, c'était pas lié à des questions de genre, mais à des questions de nationalité. Dans les années 70-75, c'est des années qui ont été traversées par des grosses tensions, des gros débats sur des questions de migration et de nationalité. C'est l'époque des initiatives Schwarzenbach. Ces initiatives déchiraient le pays et les cours d'école. Moi, j'ai été prise à partie sur le chemin de l'école. Je me suis battue, beaucoup même, mais je ne voulais surtout pas que mes parents interviennent parce que j'étais d'avis que je devais me défendre et puis me faire respecter. À l'adolescence, c'est ça aussi qui m'a poussée à vouloir devenir Suissesse. Parce que je voulais pouvoir m'exprimer par moi-même sans que personne ne puisse me dire de me taire. En poursuivant mes études, j'ai été confrontée plusieurs fois à la même question, à quoi bon ? À quoi bon étudier ? Parce qu'ensuite, après, comme fille, on se marie, on a des enfants. À quoi bon ? Cette question, j'allais devoir la résoudre plus tard, mais je dois dire que ce qui m'a portée dans mes études et qui m'a fait avancer, c'est ma responsabilité de faire fructifier mes talents et d'avoir la conviction qu'un jour ça pouvait être utile à d'autres personnes.
Je m'appelle Serge, j'ai 58 ans, j'ai effectué 2 formations différentes. Tout d'abord, technicien en radiologie médicale et puis informaticien. Je travaille actuellement pour l'État de Neuchâtel au service informatique comme responsable de plusieurs équipes de développement après avoir passé 29 ans dans une fonction similaire pour la ville de Neuchâtel. Je suis issu d'une famille assez traditionnelle concernant la place et le rôle de l'homme et de la femme et l'organisation familiale. 2 enfants, un chien, un père fortement impliqué professionnellement à l'armée et en politique, une mère chargée d'assurer le fonctionnement familial, l'éducation des enfants, tout en reprenant une activité professionnelle à temps partiel dès le début de notre scolarité. Je me suis posé peu de questions sur cette distribution des rôles et ce fonctionnement, en particulier par manque d'interpellation extérieure. En fait, je n'ai pas ressenti le besoin de m'en poser. Au lycée, les personnes côtoyées commencent à être source de questions, d'interpellations et de remises en cause des règles établies. mais je ne percevais à ce stade pas tous les enjeux ni les origines de ces mouvements. Le confort de mes acquis posait un écran passablement opaque entre ces réalités différentes et m'évitait de prendre réellement conscience de certaines inégalités et injustices. Quelques années plus tard, rencontre avec Paola, jeune femme active et militante. Ce sont mes premières confrontations personnelles avec un milieu qui vit et pense différemment. La relation en construction avec Paola a permis que j'entre dans ce processus de changement. Malgré les tensions que cela crée en moi, et la situation aurait été certainement différente sans cette relation amoureuse entre nous.
Nous nous sommes mariés en 1989. Les règles, les fameuses règles sur le nom de famille, venaient de changer pour la première fois. Garder ou pas son nom de famille pour la femme. Ce sont les premières grosses discussions avec Serge. Pour lui, il est inconcevable que nous ne portions pas le même nom. Pour moi, ce qui comptait, c'est que je puisse porter un nom, que je puisse l'utiliser au quotidien. À l'époque, la seule possibilité pour la femme, c'était soit de prendre le nom de son mari, soit de garder son nom en le faisant suivre du nom de son mari. Je n'oublie pas un nom à rallonge. Et pour moi, je me suis dit, ben, pratiquement, je n'arriverai pas à utiliser ce nom à rallonge. Ça aurait été Carmagnola Attinger. Voilà. Donc, j'ai accepté de porter le nom de Serge, mais pas pour les mêmes raisons que lui.
Notre vie de couple débute avec une organisation et répartition un peu conditionnées, en particulier pour les activités professionnelles, moi à 100% et 50% pour Paola, dans la vision d'accueillir des enfants. Pas trop de débats et de discussions sur le sujet, mais un fonctionnement le plus équilibré possible, tenant compte de nos modèles propres et de la situation du moment.
En 1991, c'est la première grève des femmes. Je travaillais à l'époque à Berne, à la Confédération, et cette grève a été pour moi un immense choc. Toutes ces femmes réunies, une énergie, une joie, une force invraisemblable. Il y avait en particulier des ateliers qui étaient organisés pour les femmes, et les femmes de tout âge y prenaient part, y ont pris part. Et là, j'ai découvert des réalités qui étaient inconcevables pour moi, mais aussi des modèles qui n'étaient pas du tout les miens. Comme par exemple le fait de continuer à travailler pendant tout son parcours professionnel tout en ayant des enfants. En 1995, c'est la naissance d'Étienne, se pose alors pour moi, pour Serge, la question de continuer ou pas à travailler. Finalement, notre réponse, on a travaillé ensemble, a été oui. C'est cette réponse qui permettait de laisser de la place à Serge, qui était très chargé professionnellement. Ça le contraignait finalement à être aussi présent. Et puis cet enfant, nous l'avions attendu longtemps, et ma crainte, c'était de l'étouffer complètement en étant la seule présente auprès de lui, essentiellement présente auprès de lui. Et puis aussi, j'avais appris en discutant avec ma maman que pour elle, ça avait été une décision très 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 douloureuse d'arrêter de travailler à la naissance de ma sœur, ce qu'elle avait complètement tue jusque-là et qu'elle me livrait à ce moment-là. Donc le modèle que j'avais n'en était pas forcément un. Puis en 97 et en 2000, sont nées Lucille et puis Rachel, et à chaque fois venait la même question qui m'était toujours adressée à moi, qui s'occupera des enfants ? Mais je dois dire que nous avions trouvé des chouettes solutions et que nous n'avons pas remis en question notre choix, hein, qui est vraiment le mot propre, de continuer tous deux à travailler.
L'arrivée des enfants donc renforce la répartition genrée des rôles. Mon souhait toutefois est d'être présent et actif avec les enfants et dans les activités familiales et domestiques. Au fil des années, nous évoluons en fonction des besoins vers un modèle plus égalitaire, mais sans l'être parfaitement. Paola porte nettement plus la famille que moi. Des événements viennent marquer ces années et notre fonctionnement, bouleversant à nouveau certains acquis, la grève des femmes, les manifestations concernant les salaires inégaux, la violence faite aux femmes et d'autres injustices.
En 2003, on me propose de m'engager en politique. Blocher vient d'être élu au Conseil fédéral et pour moi, il fallait soit se bouger, soit se taire. Deuxième grosse discussion avec Serge, j'avais vraiment besoin de son appui pour pouvoir m'engager en politique et c'était OK. C'est toujours OK.
La reconnaissance de l'activité politique de Paola, de son implication pour diverses causes et récemment dans le collectif féministe, sont pour moi des étapes dans la pleine reconnaissance de la légitimité de l'égalité homme-femme.
En 2018, en effet, des groupes se constituent partout en Suisse, du reste à la suite de l'adoption de la loi dont Sylvie nous a parlé. Ça a été un électrochoc pour beaucoup de femmes. Une nouvelle grève est décidée pour 2019 et je m'engage. Là, je découvre, je redécouvre peut-être aussi encore plus violemment, cette violence que vivent bien des femmes. Dans les quartiers modestes, comme dans les quartiers les plus riches, dans nos villages aussi. Cela me révolte, en particulier le fait que cette violence crée beaucoup de honte chez les femmes et que cette honte les emmure dans le silence. Il y a donc encore tant et tant à faire pour que nous sachions nous respecter et être bienveillants les uns avec les autres et avec nous-mêmes.
En préparant cette journée et notre intervention, nous nous sommes aussi demandé comment parler de notre couple sans parler de notre intimité, de notre sexualité. Ne pas le faire, c'est taire une part importante de ce qui le porte. Le faire, c'est d'une part nous exposer et d'autre part risquer de gêner, de choquer. On a pris, après longue réflexion, la seconde option, en parler.
Nous nous sommes lancés avec enthousiasme et appétit dans la découverte l'un de l'autre et nous n'avons pas été déçus. Nous avons cheminé un bon bout de temps avec les repères que nous portions. Mais peu à peu, nous avons réalisé aussi que notre vie intime était très conditionnée par une vision masculine de la sexualité. Nous étions formatés par cette vision qui voit dans la pénétration le seul vrai aboutissement de ce si beau moment. Tout nous poussait à cette compréhension. Toute notre culture et aussi une certaine compréhension de la pureté, très liée à la virginité de la femme et à sa perte. Que fait-on de tout le reste? Que peut-on faire? Qu'a-t-on le droit de faire? Et plus fondamentalement, qu'a-t-on envie de faire?
Sans vouloir rallonger, voici en résumé. Nous sommes toujours en chemin pour une sexualité qui laisse de la place à chacun de nous, qui est beaucoup plus large que celle que nous renvoient les médias, mais aussi notre culture, mais aussi notre éducation. Dans cette danse à deux, il y a beaucoup à ouvrir, à libérer, à exprimer, et nous sommes tous les deux porteurs de ce chemin.
En conclusion, il me semble que nous avons atteint une étape, pas la dernière, dans notre reconnaissance mutuelle et le respect de nos envies et spécificités. Par exemple, dans la recherche de l'adhésion de l'autre sur les sujets personnels, familiaux, professionnels, politiques et autres engagements, au travers d'une attitude égalitaire avec les enfants non genrés, dans notre encouragement à leur propre parcours et dans leurs études en particulier.
Ce qu'on peut dire, c'est que nos positionnements respectifs n'ont pas fait l'objet de grandes discussions, sauf sur l'une ou l'autre décision, mais se sont faits peu à peu, progressivement, en revisitant nos modèles et nos schémas. Aujourd'hui, avec le recul qui est le mien, en regardant le chemin parcouru, je suis heureux d'avoir pu vivre cette prise de conscience et d'avoir ainsi pu passer d'un modèle genré inégalitaire à un modèle plus respectueux et équilibré. Tout n'est pas fait, tout n'est pas dit, mais beaucoup de choses ont changé et changent encore. Le bénéfice du féminisme est aussi pour les hommes et pour moi.